qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie?
Qu'est-ce qui me fait marcher? Bon, la curiosité, sans doute. Le fait que c'est en marchant qu'on est humain. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et en même temps, j'apprécie aussi la marche immobile, en quelque sorte, la recherche dans les livres, le calme de la nature où je vis, puisque j'habite à la campagne dans le sud-ouest. Donc voilà, les voyages mobiles et immobiles, voilà des choses qui me plaisent. Je ne sais pas si ça convient comme réponse.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Jean Arambat, auteur d'Opération Copperhead, bande dessinée parue aux éditions d'Argo. J'ai lu ton CV. C'est cohérent tout ça ou c'est, ah non, c'est brownien?
Non, c'est absolument incohérent, mais j'étais très hésitant sur ce que je voulais faire de ma vie. J'avais des choses que j'aimais, j'ai grandi à la campagne, j'avais envie d'aventure, je lisais de la littérature d'aventure, et puis on grandit, on se confronte au vrai monde, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai un peu zigzagué, et un jour, je me plaignais de tous ces zigzags, de toutes ces hésitations auprès de mon vieux prof de philo, et puis il me disait « Non mais c'est vous qui faites l'unité de tout ça, il ne faut pas vous inquiéter, toutes les choses s'emboîtent au bout d'un moment, et c'est vrai que c'était un moment où j'ai décidé d'écrire et de dessiner davantage et d'en faire mon métier. Et toutes ces expériences diverses, variées, réussies ou ratées, j'ai pu les rassembler comme j'ai pu pour que ça m'aide finalement, oui, parce que tout ça m'aide à faire ce beau métier qu'est auteur de bande dessinée.
À la fois scénariste et dessinateur.
Oui, c'est ce qu'on appelle les auteurs complets. Il y avait une théorie d'auteur complet qui disait que voilà, c'était comme ça qu'on pouvait faire de la bonne BD, comme Hergé, comme Franquin. Il y en a qui fonctionnent en duo, mais c'est vrai que moi j'ai plaisir à faire cet aller-retour entre le dessin et le texte, et entre le texte et le dessin aussi. Et puis jusqu'à la dernière minute, je peux changer une virgule, une réplique, de façon à essayer d'améliorer autant que possible mes histoires.
Petit clin d'œil. Taquin, Goscinny, alors il est incomplet lui.
Ah, Goscinny, mais Goscinny, il a de la chance, c'est qu'il a. Alors d'abord, il a travaillé avec des grands dessinateurs, mais il a eu une amitié, je pense, hors norme, extraordinaire, comme peu de gens en ont dans la vie, avec Uderzo, qui était un grand dessinateur. Uderzo, il a fait ses gros nez, je sais pas, maintenant si on mesure le talent qu'il avait, mais il avait vraiment un génie du dessin, et je crois qu'il y avait une amitié. Qui a fait que c'était une sorte de Janus, quoi, d'un seul personnage à deux têtes, enfin en tout cas pour Astérix. Et ça, c'était quelque chose de très précieux. Mais Goscinny dessinait, je pense qu'un là, maintenant, dans les, on a exhumé ses dessins un petit peu parce qu'il y a eu des commémorations, des expositions. Peut-être qu'aujourd'hui, où on attend des choses différentes du dessin en bande dessinée, peut-être qu'aujourd'hui, il aurait pu être un auteur complet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a déployé, son génie dans le scénario, et ça a traversé les générations, les milieux, et ça, c'est un cadeau du ciel.
Tu te souviens de ton premier dessin?
Mon premier dessin, tout premier, non, parce que j'ai dessiné très très jeune beaucoup, mais j'ai le souvenir, par exemple, de ma première participation au Festival d'Angoulême, à ce qu'on appelait, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, les jeunes talents ou les écoliers. Quoi. J'étais en cours moyen, j'avais fait deux pages de BD pour le concours des enfants d'Angoulême. J'avais fait une histoire de viking, viking dans le sud-ouest. Ma mère aimait beaucoup l'histoire locale, alors elle me donnait des documents là-dessus. Et figure-toi que j'ai eu un petit prix secondaire, pas grand-chose, mais qui m'a été remis par Tito en Lamazou, qui était à l'époque, il était que marin. Il naviguait sur Écureuil d'Aquitaine, qui était le bateau sponsorisé par une banque célèbre qui donnait des sous aussi au Festival d'Angoulême. Donc il me donnait ce prix à cette occasion. Et bien plus tard, quand j'ai pu faire du dessin mon métier, j'ai recroisé Tito en Lamazou, qui était devenu un grand peintre célèbre. Et voilà, j'ai pu lui dire que je dessinais. C'était ma nouvelle voie.
Je précise que je décline une version courte de la marche, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, que je vais vite sur le CV, que j'ai passé ton investissement dans les ONG. Juste un petit mot, mais beaucoup de temps.
C'était important, c'est vrai que à un moment j'ai bossé pour Action contre la faim, ça m'a amené en Afrique, au Libéria. C'était une expérience très très intense pour moi, et il se trouve que un peu comme Ulysse, qui était le thème de ma précédente BD, après ces longs voyages, là je suis rentré au pays, je suis rentré chez moi dans les Landes où je vis et où je travaille maintenant.
Comment est née Opération Copperhead ? Je le dis en anglais.
Alors, c'est né de mon plaisir à discuter cinéma avec le mari anglais de ma sœur, Simon, qui est très anglais, c'est un joueur de cricket londonien. Et alors, un jour, il m'a dit comme ça, il m'a conseillé de lire l'autobiographie de David Niven, qui s'appelle en français « Décrocher la lune ». Pour mon plaisir, je n'avais pas du tout en tête d'en faire un projet de bande dessinée. Puis en lisant ça, je découvre que pendant la guerre, Niven était soldat de formation, il était parti à Hollywood, mais il est revenu en 1939 pour défendre son pays. Et je découvre que pendant la guerre, sous ses ordres, un soldat de deuxième classe nommé Peter Ustinov est chargé d'être son ordonnance, son valet de pied. Et alors, je trouvais que ce duo Don Quichotte, Sancho Panza ou Blake et Mortimer était formidable, et j'avais envie de les animer, de les faire parler, de les dessiner. Je cherchais une bonne histoire à raconter avec eux, et elle m'est tombée du ciel en grattant un peu, en fouillant dans des récits historiques de cette époque, des biographies des uns et des autres. C'était l'opération Copperhead, donc, qui donne le titre à ma bande dessinée, une opération de désinformation qui, en plus, parle de doublure, d'acteurs, de cinéma, et c'était une façon comme ça de parler de guerre, d'espionnage, de cinéma, d'humour, enfin tous ces bons ingrédients étaient là, il fallait les cuisiner de la meilleure des manières.
Il y a trois personnages centraux.
Centraux, il y a plein. Il y a ces trois acteurs, il y a aussi...
parce que je l'aimais les acteurs en centraux, mais...
Oui.
Il y a le père aussi, mais les trois noms...
Le père, puis surtout il y a Vera qui était un personnage important pour moi, j'avais... Bon, quand on dessine... une mission d'espionnage, un univers militaire, comme ça fait quand même beaucoup de barbus, comme disent les copains, ça fait beaucoup de mecs, beaucoup d'hommes, et alors je voulais un antagoniste féminin. Et là aussi, il m'est tombé du ciel, en quelque sorte, en fouillant dans les livres d'histoire, j'ai trouvé m'est apparue Vera von Schalburg, qui avait été danseuse au Folies Bergères. Alors bon, j'en dis pas trop, mais c'est un personnage important de ma bande dessinée. Un personnage féminin, et puis je voulais aussi qui évidemment aura un lien particulier avec David Niven, qui est mon personnage principal. Et voilà, je voulais qu'ils fassent tous les deux une sorte de couple glamour de cinéma de ces années-là. Donc il y a, pour revenir dans l'ordre, il y a David Niven effectivement est le protagoniste principal, il y a Ustinov sous ses ordres qui est son Sancho Panza, et puis il y a ce troisième larron, Clifton James, qui était au service de comptabilité des armées et qui avait la particularité d'être le sosie de Montgomery. Et les services secrets britanniques sont allés le chercher là, dans son service de comptabilité. Ils ont demandé à Niven, et ça c'est tout à fait authentique, de le recruter de façon à l'entraîner, à le faire parler comme Montgomery, comme le général en chef des services alliés. Et la mission Copperhead a consisté à promener ce brave homme, là, ce brave comptable, en Afrique du Nord pour tromper l'intelligence allemande et pour faire croire à un mauvais débarquement, un débarquement par le sud de la France. C'est une opération qui a été très tardive, elle n'a pas eu un énorme succès, mais elle a fait partie de tout un ensemble de missions qui ont véritablement trompé les Allemands. Ils ne savaient pas du tout que le débarquement se ferait en Normandie. Et voilà, Niven était mêlé à ça, et donc Ustinov, et il y avait cet acteur comptable qui avait quelques problèmes de confiance en lui.
Ingérable, ce garçon.
Ingérable. J'ai un peu forcé le trait pour avoir, comme on dit en dramaturgie, du conflit, pour avoir des choses à raconter. Enfin voilà, je voulais, avec ces Anglais, là, je voulais les faire dialoguer, qu'ils aient une répartie qui renvoie à leur personnalité, bien sûr, mais aussi à un certain cinéma que j'aime beaucoup, le cinéma de cette époque-là qui a gardé beaucoup de modernité et voilà, notamment le maître de ce qu'on a appelé la comédie sophistiquée, Ernest Lubitsch.
Au début, ça t'est venu tout de suite l'idée de nous plonger dans l'ambiance d'un plateau de tournage pour que les personnages puissent évoquer leurs souvenirs?
J'avais cette idée-là, bien sûr, mais j'avais peur qu'elle soit un peu trop convenue. Mais en même temps, j'avais besoin de resituer Niven et Ustinov. Je me disais que les mettre en scène dans un de leurs plus gros succès, La mort sur le Nil, où c'est véritablement des stars à ce moment-là, dans les années 70, c'était aider le lecteur un peu à se remémorer leur carrière. Et après, on revient dans les années 40, dans le moment de leur rencontre et cette fameuse mission que je raconte dans ma BD.
Mais qui prend la main? C'est le scénariste ou le dessinateur?
C'est un aller-retour. Parfois, quand l'un bloque, l'autre trouve des solutions. Par exemple, quand on souffre, quand ça m'arrive, de souffrir sur le dessin et de me dire que ça, c'est quelque chose que j'arriverai pas à faire, je peux, en tant que scénariste, trouver une façon d'évacuer ça. Ou inversement, il y a des choses que j'ai envie de dessiner, alors je les glisse dans le scénario, ou une réplique que j'ai envie d'ajouter, alors je modifie mon découpage. C'est l'avantage de tout faire tout seul, c'est de pouvoir comme ça moduler le texte et le dessin. Je dis que je fais tout seul, mais c'est pas tout à fait exact, parce que j'ai une coloriste très talentueuse qui s'appelle Isabelle Merlet, qui a collaboré d'ailleurs avec le Nantais Tancrel, qui participe vraiment dans la construction de cette histoire en apportant ses couleurs et son travail en couleurs qui est très riche.
Comment dessiner des personnages connus?
C'est pas du dessin réaliste, c'est pas de la caricature non plus. Je voulais pas qu'il y ait une caricature moqueuse, agressive, je voulais une forme de stylisation. Aussi parce que ce dessin stylisé, c'est quelque chose qui me convient. Et puis je voulais rappeler par le dessin quelque chose d'un peu cartoon, quelque chose qui renvoie à ces années-là, ces années 40-50, où il y avait une belle tradition d'illustrateurs en Angleterre. Et alors je me suis penché là-dessus, notamment il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup qui s'appelle Ronald Searle, qui était un grand dessinateur. Heureusement pour moi, Niven et Ustinov ont des physiques assez reconnaissables. Il y a la raideur de l'un et la rondeur de l'autre, les petites moustaches et le grand nez. J'avais des choses pour appuyer ma stylisation, mon idéalisation de ces deux caractères, de ces deux personnages.
Et un parti pris aussi pour évoquer des ambiances, de simplement signifier les traits, pas nécessairement aller jusqu'à la précision.
Oh ben oui, parfois...
C'est un parti pris stylistique ou c'est pour gagner du temps?
Non, c'est pas pour gagner du temps. Non, c'est vrai qu'on a... moi, souvent, je trouve les bandes dessinées parfois surchargées, quoi. On a du mal à y jeter un œil. Alors j'aime bien quand c'est quand même un peu aéré, quand il y a une forme d'épure, que l'œil circule. Et puis, par moments, il faut ralentir un peu la lecture. Et à ce moment-là, on peut charger un peu plus un dessin, le fouiller un peu plus, et de façon à ce que l'œil s'arrête un peu plus longtemps. Et ça fait partie des stratégies de la bande dessinée. Il faut que l'œil quand même circule de la meilleure des manières. Donc, quand j'ai fait mes premières bandes dessinées, j'avais un dessin plus bouillonnant, avec un trait beaucoup plus ouvert. Et là, j'ai essayé aussi, parce que le thème s'y prêtait, d'avoir quelque chose qui renvoie à un certain univers de bande dessinée, la ligne claire, la BD franco-belge, quitte à la tordre un petit peu pour amener un peu de modernité là-dedans.
Publier des extraits de bio, ça fait partie de cette volonté de modernité?
En tout cas, c'était essayer de trouver une narration un peu différente en bande dessinée. Moi, j'aime les mots, j'aime la littérature. Je trouvais que c'était intéressant de m'appuyer sur ces extraits de biographies qui sont un peu vrais, qui sont un peu faux aussi, qui sont un peu réinventés, on va dire. C'était une façon d'amener de l'humour, c'était une façon de ralentir le rythme quand c'était nécessaire. Je voulais que cette bande dessinée elle soit dense, elle soit complète, qu'il y ait une sorte une promesse de lecture, en quelque sorte. Et que le lecteur il puisse rentrer dans un univers comme ça pendant plusieurs heures et accompagner mes personnages comme ça pendant un certain temps.
Il y a un jeu entre la version dessinée et puis le texte.
Oui, il y a quelque chose dans l'ironie anglaise qui me plaît beaucoup, parce que ça demande en quelque sorte la participation du lecteur, cette ironie-là. Il faut essayer de comprendre ce qu'il y a entre les mots, le sous-entendu. Et voilà, ça m'amusait de jouer avec ça, avec le texte et le dessin. Mais...
Nous accompagnons dans la rue Jean Arambat, auteur d'Opération Copperhead, bande dessinée parue aux éditions d'Argo.
ça m'amusait de jouer avec ça, avec, avec le texte et le dessin. Et, voilà, et renvoyer à un certain cinéma. C'est un peu comme des poupées russes, en fait. C'est l'histoire avec sa grande hache, comme on disait. C'est aussi renvoyer à un certain cinéma, un monde de bande dessinée, un monde d'illustration. Il fallait que tout ça se marie de la meilleure des manières. Alors j'ai fait ce que j'ai pu.
Bon, c'est pas mal, hein.
Ouais, merci. Puis voilà, on ne sait jamais quand est-ce qu'on trouve le bon équilibre. Et quand le livre sort, on espère que cet équilibre-là il est atteint, que les gens ils vont saisir tout ce qu'on a mis, toutes ces heures de travail, toutes ces années de travail. Voilà, on a envie de trouver le lecteur idéal qui comprenne tout ça. Et en même temps, on sait que c'est de la bande dessinée, que ça se lit avec une certaine légèreté. Et il faut aussi que cette dimension-là, elle soit présente de plaisir de lecture et de plaisir pour l'aventure et l'humour. Bon, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse, en fait. Il faut qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, en quelque sorte. Plusieurs pioches, plusieurs moissons à chaque lecture.
Vous êtes en quête du lecteur idéal. Vous n'êtes pas en quête du dessinateur scénariste idéal.
Non, mais ce qui est... de la croisière, ce qui est parfait est raté. Donc il ne faut pas... La perfection, il ne faut pas chercher à l'atteindre. Mais il faut faire ce qu'on peut, disons.
Un petit jeu avec les pages de garde.
Oui, moi, c'est un cinéma que j'aime, le cinéma de ces années-là. Puis quand nous étions au XXe siècle, on voyait ces films très fréquemment à la télévision, les jours fériés, ces films avec David Niven. Il y avait Mort sur le Nil avec Ustinov, il y avait Les Canons de Navarone. Le Cerveau était une comédie aussi qui repassait très souvent. Mais c'est vrai que les lecteurs d'aujourd'hui ont peut-être oublié qui c'était. Alors je voulais le rappeler. Et rappeler qui étaient ces grandes vedettes qui ont eu des Oscars. Et pour ça, je voulais jouer avec les images. Alors, il y a des affiches qui apparaissent dans l'album. Et puis, dans les pages de garde, il y a ces photographies de tournage qui rappellent un peu la carrière très riche de ces deux acteurs. Et aussi d'autres photos, des publications, des affiches de films. Tout ça s'entremêle dans ces pages de garde. Et pour celui qui veut fouiller un petit peu, il trouvera des choses liées au récit qui est... au récit sur ça fait 175 pages, quelque chose comme ça. Voilà, celui qui veut prolonger l'aventure, il peut voir des films et regarder attentivement ces pages de garde.
Merci à Jean Arambat, auteur d'Opération Copperhead, bande dessinée parue aux éditions d'Argo, ainsi qu'à ses amis, pour leur libre participation à ce programme. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant ?
J'en retiens que, malgré sa réputation, il ne pleut pas toujours sur Nantes. Non, c'est Nantes est très, très vivante. Je suis du Sud-Ouest, alors c'est pas si facile de venir à Nantes. On nous fait passer par Paris à chaque fois, mais j'ai reçu vraiment un merveilleux accueil. Je suis très sensible et je retiens que je reviendrai.
Il y a des admirateurs?
Je sais pas.
Ah, oui. Je connais pas.
Mais ça alors, je sais pas leur contexte.
On vient en famille.
Ça, c'est des amis, ça, de longue date. Bon. Quand je menais d'autres vies pour lesquelles tu m'as interrogé tout à l'heure, là, avant que je fasse ce métier-là, on est allé à la pêche, à la crevette ensemble.
Il a même découvert ma passion qui est pêcheur bassier. On a pêché des crevettes ensemble dans la baie de Bourneuf.
Et puis, c'est vrai que j'habite loin de la foule déchaînée dans les Landes, alors j'ai pas l'occasion de voir toutes ces têtes aussi souvent que je le voudrais.
C'est une tête, des mains, un cœur.
Il manque l'intestin pour digérer tout ça.
Oh, il a de l'appétit. Hein. Je l'ai vu à la thèse de mon fils.
J'étais pas à mon meilleur là. J'étais un peu après la thèse. On m'avait raccompagné au lit assez vite avant d'avoir trop de dégâts.